Moi, je vous propose de commencer cette leçon ou ce cours sur la quatrième barrière, finalement, que nous allons considérer dans cette série de cours, qui est cette fois-ci une barrière avec laquelle vous êtes sans doute encore plus familier que les précédentes, dans la mesure où celle-là est visible, contrairement à la barrière intestinale ou à la barrière urinaire. C'est la barrière cutanée. Et j'ai essayé... au-delà des processus infectieux classiques que vous connaissez sans doute, auxquels vous avez pu être éventuellement directement ou indirectement confronté, d'essayer peut-être d'insister encore plus que d'habitude sur la nature de cette barrière, plus peut-être que sur les mécanismes infectieux avec lesquels vous commencez à être plus ou moins familier. Donc je vais essayer de faire... quelque chose qui, je l'espère, vous donnera une vision un petit peu intégrée de la situation et qui vous permettra éventuellement de mieux comprendre ultérieurement, lorsque vous êtes amené à y réfléchir, comment un micro-organisme pathogène peut disloquer finalement cette intégrité de cette barrière et donner lieu à un processus infectieux. Donc, je vais essayer de vous développer ces aspects-là dans ma présentation. Et dans une certaine mesure, presque préparer le terrain pour le séminaire qui suivra, qui sera donné par le professeur Gérard Hort. Je vais parler très peu, voire pas du tout, de virus ou d'infection virale cutanée. Lui vous en donnera une vision plus globale et surtout un développement très précis sur la famille de virus sur lequel il a énormément contribué, qui sont les papillomavirus, dont un des sites... essentiel d'infection, de multiplication et la peau. Donc je vais en quelque sorte donner, encore une fois, comme je le dis souvent, une vision du champ de bataille, et ensuite vous pourrez voir comment les troupes éventuellement peuvent s'y développer, d'où cette composante un petit peu agressive de ma première diapositive. Donc la barrière cutanée, l'autre grande interface avec le monde microbien, et on va essayer, comme d'habitude, de se caler un petit peu sur ces notions de microbiote, de commensalisme. La flore bactérienne cutanée est une flore, finalement, qui est relativement connue, mais vous allez voir que, comme dans d'autres cas qu'on a déjà considérés, les choses ne sont peut-être pas si simples. Et c'est peut-être une des situations aussi où cette notion de balance, d'équilibre entre le commensalisme, le mutualisme, la symbiose, on a utilisé beaucoup de ces termes, et la pathogénicité ne sont pas toujours aussi claires. On prendra rapidement un exemple qui est celui de l'acné, par exemple. Est-ce que c'est un dérapage du commensalisme? Est-ce que c'est déjà véritablement un micro-organisme pathogène qui est en cause? Tout ça, ce sont des questions qui sont encore en cours et où je dirais peut-être que, en matière d'étude des interactions microbes hôtes, autant les travaux ont énormément porté sur des thèmes que j'ai déjà développés, les interactions des micro-organismes pathogènes avec l'épithélium intestinal, par exemple, avec l'épithélium urinaire la semaine dernière, autant on a l'impression que cette interface avec la peau est un domaine qui, en tout cas pour ce qui concerne les infections bactériennes, a été relativement négligé. Donc j'espère avoir là réussi à rassembler un certain nombre d'informations, de concepts qui vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. Alors, comme d'habitude, j'essaye de vous donner quelques chiffres. La peau en quelques chiffres. La peau, c'est un organe qui est composé de 2 × 10^12 cellules, donc 2000 milliards de cellules, ce qui, bien sûr, est tout à fait considérable. Ces cellules étant organisées, en fait, dans 3 strates principales, on va y revenir, qui sont des couches tout à fait cohérentes. On en reparlera aussi, elle intègre 6 barrières en une. Je donnerai quelques éléments de compréhension de cela ensuite. Et lorsque vous raisonnez en termes de surface, en tout cas en termes de surface chez un adulte, on parle là de 1,75 à 2 mètres carrés environ, pour un poids total, ça c'est un chiffre que j'ai découvert, de 5 kg, ce qui est quand même un organe tout à fait considérable et présentable par rapport à d'autres. Elle est formée donc de ces 3 couches, de l'épiderme, qui est la couche superficielle, bien entendu. Je suis désolé, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Voilà. De l'épiderme, du derme et de l'hypoderme, et on reviendra sur ces notions. Là, c'est vraiment une pure introduction. Alors, la barrière cutanée, c'est en fait, comme on l'a déjà dit souvent pour d'autres éléments épithéliaux ou muqueux, une barrière intégrant plusieurs barrières en réalité. Donc on a, et ça vous le savez bien entendu, une barrière mécanique, c'est bien entendu un système de résistance tout à fait efficace aux agressions mécaniques, aux traumatismes, en tout cas dans une certaine limite. C'est une barrière imperméable, elle prévient à la fois l'entrée et la sortie finalement, elle prévient l'entrée d'eau exagérée lorsqu'on y est exposé, mais elle prévient surtout la sortie d'eau, en particulier par rapport à la température ambiante, et bien sûr avec l'eau sortent éventuellement les électrolytes, d'où la possibilité de déshydratation. Donc là aussi c'est une fonction de barrière tout à fait essentielle pour notre survie, y compris en matière de contrôle de la pénétration de substances irritantes, d'allergènes ou de toxiques. C'est aussi une barrière aux rayons, en particulier aux rayons ultraviolets, donc une protection antisolaire, donc une protection anticancéreuse, puisque les altérations de l'ADN induites par les rayons ultraviolets non contrôlés peuvent donner très très rapidement lieu à des transformations cellulaires. C'est une barrière aux agents oxydants, elle protège en particulier contre le stress oxydatif les lipides, à la fois ses propres lipides qui composent l'interstitium cellulaire et bien sûr les membranes des cellules. Et puis c'est une barrière thermique qui permet de limiter les échanges, encore une fois, interne-externe et externe-interne selon les conditions ambiantes. Donc ça fait cinq barrières. Et la sixième, bien entendu, qui nous passionne ici, c'est la barrière immunologique et anti-infectieuse. En fait, la peau, et c'est évident, c'est notre interface première avec l'environnement microbien, orchestre la protection des surfaces externes de l'hôte et en particulier en permanence contrôle ces 1,75 m, 2 m carrés qu'on expose au milieu extérieur, en y opposant donc cette barrière physique aux micro-organismes, une notion de perception comme dans les autres épithéliums qu'on a envisagé jusqu'à présent, c'est-à-dire la capacité d'une veille, d'une reconnaissance des micro-organismes. On a déjà longuement parlé, je n'y reviendrai pas, des toll-like récepteurs et autres systèmes de perception des motifs microbiens. Et puis bien entendu la capacité, au-delà de cet effet immédiat, inné de barrière à ces micro-organismes, de mettre en place par voie de signalisation et d'orchestrer une réponse immunitaire qui pourra aboutir même, on y reviendra, à une réponse spécifique permettant de s'immuniser contre des micro-organismes. J'en parlerai pas ici, mais enfin vous avez tous fait l'expérience à un moment ou un autre de votre vie d'une vaccination, même de plusieurs vaccinations, c'est que la peau est une des zones, un des sites, pas uniquement du fait de la facilité d'injection, mais aussi de son organisation immunologique qui lui permet d'acquérir facilement, de traiter et d'envoyer dans le système immunitaire général les antigènes de manière à monter une réponse immunitaire efficace. Donc il y a quelque chose de particulier dans la peau vis-à-vis du système immunitaire sur laquelle on reviendra rapidement. Alors, une fois qu'on a parlé de toutes ces barrières, on peut effectivement en venir à une vision un petit peu plus colorée de cette barrière cutanée. Donc, finalement, ces trois couches dont je vous ai parlé, l'épiderme, bien entendu, le derme et l'hypoderme. Alors, l'hypoderme, c'est grossièrement du gras, des réserves. On n'en parlera pas dans cette présentation, encore que sur ce qui concerne les processus infectieux, en particulier infectieux microbiens, beaucoup des infections graves vont se développer dans ce tissu qui est très richement vascularisé, très riche en nutriments et plutôt relativement facile à disloquer pour une bactérie produisant par exemple des protéases ou des lipases. Donc on monte dans le derme. La caractéristique du derme, et après ça se termine, c'est sa vascularisation. Donc c'est à partir de ces capillaires vasculaires du derme que seront amenées éventuellement les cellules immunitaires recrutées à l'occasion des signaux induits par une brèche épidermique et finalement l'irruption de micro-organismes. Et puis on tombe dans cette fameuse couche qui, elle, représente finalement la partie mécanique essentielle de cette barrière qui est l'épiderme. On reviendra sur sa structure plus fine, mais retenez bien entendu le fait que l'épiderme n'est pas vascularisé, et donc va représenter ou a nécessité dans le processus évolutif qui a amené à ce que nous ayons un épiderme, va sûrement avoir amené des caractéristiques particulières dans la nature des cellules qui constituent cet épiderme, dans la nature des cellules immunitaires qui vont éventuellement le peupler, le coloniser, qui donnent quelque chose de relativement particulier à finalement cette interface entre les éléments cellulaires qui forment le tissu et les éléments immunologiques qui vont participer à la réponse anti-infectieuse. Et puis bien entendu, autour de ça, des extensions, si l'on veut, de l'épiderme qui, et on y reviendra, donne lieu à ces follicules pilosébacées, la racine du poil et le poil, et toute cette zone est histologiquement et physiologiquement surtout en train de devenir, pour des raisons qui concernent en particulier la régénération de la peau, la localisation particulière des cellules souches, des zones extrêmement intéressantes, et bien sûr les glandes sudoripares, toutes zones finalement qui peuvent donner lieu à un moment ou à un autre à la mise en place d'un processus infectieux. Alors, notre peau, cette peau, elle est en fait, bon, tout est relatif et tout est dans le poids qu'on veut donner au terme, mais tout de même, si on y réfléchit bien quand même, une extraordinaire résistance. Et donc, dans la grande majorité des cas, les processus infectieux cutanés vont nécessiter, pour être engagés et se développer ultérieurement, mais surtout pour être engagés, une brèche. Il y a peu, finalement, en particulier dans le monde des bactéries, de micro-organismes qui sont susceptibles d'eux-mêmes d'être déposés sur la peau et quelque part de faire leur voie à travers l'épiderme, dans le derme, dans l'hypoderme et développer leur processus infectieux. La plupart du temps, il faut une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, elle peut être bien entendu épidermique. Ça peut être une brûlure, une morsure, une piqûre. Enfin, vous imaginez toutes les possibilités qui vont amener à une solution de continuité dans l'épiderme et faciliter la pénétration du micro-organisme. Ça peut être aussi des maladies dermatologiques, des bulles, des vésicules infectieuses. Ça peut être le bistouri du chirurgien. Ça peut être les ulcères ou les escarres d'un patient diabétique. Donc, tout ce qui va amener une solution de continuité, bien entendu, va faciliter la pénétration et le développement des micro-organismes. Mais ça n'est pas uniquement l'épiderme, ça peut être aussi des portes d'entrée folliculaires, soit le développement incontrôlé de micro-organismes endogènes, on en reparlera, qui composent en fait le microbiote cutané, ça va être le cas par exemple des staphylocoques, soit des micro-organismes exogènes. On a découvert il y a quelques années que les personnes qui exagéraient l'utilisation des jacuzzis, en particulier, surtout lorsque l'hygiène de ces jacuzzis n'était pas tout à fait respectée, développaient volontiers des folliculites aiguës, donc des infections du follicule pileux, en particulier à Pseudomonas aeruginosa. Il y a aussi des ruptures et des dislocations de la couche cornée sur laquelle on va revenir par infection endogène et en particulier par la présence de virus, comme le virus de la varicelle, par exemple, ou neurogène, comme le virus herpès, en tout cas dans ses formes résurgentes, qui vont faciliter éventuellement des surinfections. C'est vrai qu'une des surinfections majeures chez l'enfant au cours des infections virales et la varicelle. Et puis, il va y avoir des situations où le micro-organisme va éventuellement rentrer par la porte de derrière. C'est-à-dire qu'il ne va pas se donner le mal de rentrer par effraction, mais il va diffuser à partir d'une situation septicémique, par exemple, au cours d'un purpura fulminans à Neisseria meningitidis, au cours d'une septicémie à Pseudomonas aeruginosa, on appelle ça l'ectyma gangréneux, au cours d'une endocardite à streptocoque, le micro-organisme, finalement, va être ensemencé via la circulation, via les capillaires sanguins dans le derme, et à partir de là, de façon rétrograde, si l'on peut dire, va infecter l'épiderme et donner lieu à des lésions qui, d'ailleurs, peuvent amener à identifier la présence de cet état infectieux. C'est le cas, par exemple, du purpura fulminans lors des septicémies à Neisseria meningitidis précédant éventuellement la survenue de la méningite. Donc, c'est un processus, si vous voulez, en quelque sorte, de barrière contournée. Alors, si on rentre dans la structure générale de l'épiderme, on se retrouve avec un certain nombre de zones, de couches, qui sont mentionnées ici avec des numéros. Alors, si on va de l'extérieur vers l'intérieur, on a une première couche qu'on appelle le stratum corneum ou la couche cornée, qui est vraiment, je dirais là, et on y reviendra en particulier dans l'organisation fonctionnelle des systèmes de défense, la barrière principale de la peau en matière de prévention au jour le jour des pénétrations de micro-organismes à travers cette barrière cutanée. Donc cet stratum corneum, c'est... Bon, on a tendance à parler de peau morte parce qu'effectivement, les kérastinocytes cutanés évoluent progressivement vers une situation de cellules mortes, mais ça reste néanmoins une zone qui est métaboliquement extrêmement active et fonctionnellement tout à fait fondamentale dans cet effet de barrière cutanée. Au-dessous, immédiatement, se trouvent des cellules. Les noms latins sont très, très jolis d'ailleurs, mais sont surtout évocateurs de ce que les histologistes, lorsqu'ils ont commencé à décrire la peau, ont vu sous leur microscope. Et donc, le stratum granulosum, ça consiste en un certain nombre de cellules qui donnent lieu à un aspect relativement granuleux, car elles sont effectivement très riches en granules, on y reviendra. Le stratum spinosum, qui est juste en dessous, qui est une région active, transitionnelle, intermédiaire dans la formation de la peau. Alors pourquoi épineuse ? Parce qu'en fait, les cellules donnent l'impression d'être liées les unes aux autres par des structures qui ressemblent à des épines. Et je vous expliquerai après pourquoi on a cet aspect spineux de ce stratum, donc appelé spinosum. Le stratum basalé ou germinatif, c'est la couche du bas, c'est celle qui est la plus proche du derme. Elle en est séparée en fait de ce un élément qu'on appelle la membrane basilaire, et c'est la souche à partir de la zone à partir de laquelle se régénère la peau, en particulier à l'état physiologique, et puis bien sûr dans des états de lésions cutanées où il faut amplifier la prolifération pour remplir les vides et reconstituer une peau normale. Alors tout ça donne lieu, lorsqu'on fait une coupe histologique, en fonction d'ailleurs de la zone et de l'épaisseur de la peau, là où se fait le prélèvement, à quelque chose qui est relativement clair. Vous voyez le stratum corneum ici, qui est assez clairement séparé du stratum granulosum par cette zone claire ici. Sur des peaux plus minces, on ne verrait généralement pas cette zone, mais enfin, elle serait plutôt virtuelle. Et puis les autres parties qui ont été mentionnées. Donc tout ça représente un terrain tout à fait passionnant pour étudier ce que l'irruption, encore une fois accidentelle, de micro-organismes peut entraîner de processus de réorganisation. Ce qui est important quand même de prendre en compte d'emblée, c'est que je vous ai dit que pour qu'un pathogène puisse rentrer dans la peau, il fallait l'y introduire le plus souvent de façon accidentelle ou artificielle. Ceci traduit tout de même le fait, parce qu'on peut faire confiance aux microbes qui sont capables de faire des choses tout à fait agressives sur un épithélium. Je vous ai montré des exemples antérieurement dans d'autres systèmes. Donc ça traduit probablement de façon spectaculaire la qualité de barrière anti-infectieuse que représente la peau. Et le fait qu'en réalité, un peu comme on avait vu pour le tube digestif, on a une flore microbienne, et on y reviendra, qui colonise de façon permanente, une flore résidente. Cette flore résidente est vraiment gardée sous contrôle extrêmement strict, car si ces mécanismes venaient à faillir, elle pourrait très très bien se développer et détruire ces tissus. Donc il y a, dans cette notion de nécessité d'inoculation accidentelle, une reconnaissance finalement de la qualité de l'ensemble du dispositif anti-infectieux cutané. Alors, la cellule de base de cette peau, c'est une cellule qu'on appelle le kératinocyte, qui est joliment dessinée ici. Donc, Ces kératinocytes, ils ont, j'ai mis classiquement, parce qu'on peut leur trouver de plus en plus éventuellement d'autres fonctions, mais classiquement trois grandes fonctions qui sont en rapport avec des structures morphologiques qu'on peut identifier, c'est ce que je vous disais précédemment. Tout d'abord, ils assurent la cohésion de l'épiderme par leur cytosquelette et des systèmes de jonction cellulaire sur lesquels je vais revenir, des systèmes intercellulaires qu'on appelle les desmosomes ou des systèmes d'interaction, en particulier pour les cellules de la couche basale avec les matrices extracellulaires qu'on appelle des hémidesmosomes. Ils forment une barrière, bien sûr, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur avec le rôle très, très important de la couche cornée ou du stratum corneum. Et ils protègent, comme je vous l'ai dit, l'organisme des radiations lumineuses, par exemple, grâce à des structures particulières et tout à fait passionnantes qu'on appelle les mélanosomes, sur lesquelles je reviendrai très, très rapidement. Alors, cette notion de cohésion des kératinocytes et donc de structure cellulaire dédiée, différenciée, qui assure cette cohésion mécanique, repose sur des éléments qu'on appelle des desmosomes. Donc vous voyez ici deux cellules côte à côte, avec, enfin on peut voir le dessin ici d'ailleurs, avec la membrane de la cellule A et la membrane de la cellule B. Et à certains endroits, l'existence de ces renforcements ici, qu'on voit très bien en microscopie électronique, est accrochée, ou plutôt ce sont ces renforcements qui s'accrochent à des structures qui ressemblent beaucoup à des filaments extrêmement denses. Donc ces éléments-là correspondent à la partie dense du desmosome. On va revenir rapidement sur les molécules qu'il constitue, qui s'ancrent, qui s'accrochent à ce qu'on appelle des filaments intermédiaires, et en particulier à des filaments intermédiaires qui s'appellent les cytokératines dans ces cellules donc de l'épithélium cutané. Alors, cette cohésion des kératinocytes, elle est sur le plan de la constitution des molécules qui la constituent, relativement différente des éléments essentiels de cohésion qu'on a vus, par exemple, pour l'épithélium intestinal ou pour l'épithélium urinaire. Elle repose donc sur ces structures qu'on appelle des desmosomes, qui correspondent sur la partie extérieure et transmembranaire de la cellule à des molécules dont on a déjà parlé, qui sont les cadérines. Mais l'ancrage interne de ces cadérines se fait, dans le cas de ces kératinocytes, sur d'autres molécules que vous voyez mentionnées ici, la placoglobine et la desmoplakine. Et ce sont clusters de molécules qui, associées, vont donner lieu à cette structure qu'on voit ici sous forme de desmosomes. Et comme vous le voyez ici, comme mentionné, ce desmosome est ancré très solidement à ces filaments ici de cytokératine et formant donc l'ensemble de ce complexe d'interactions qui assure la cohésion. Alors, de la même façon, les cellules peuvent s'associer non pas à d'autres cellules, mais à, par exemple, une membrane basale, dans le cadre, par exemple, des cellules du corps basal. Et ceci se fait, par contre, de façon plus classique par l'intermédiaire d'intégrines qui se lient à des protéines de la matrice cellulaire. Donc vous voyez quelque chose de similaire dans l'esprit, mais de relativement différent dans le caractère prédominant de ces desmosomes dans la notion de cohésion des kératinocytes. Et en fait, si vous regardez... On ne voit pas tellement bien la photo en fluorescence ici. Vous verriez la formation de ces espèces de spicules, finalement, qui correspondent à l'accrochage des cellules par l'intermédiaire des desmosomes. Et c'est ça, en fait, qui génère cette notion de couche spineuse, c'est-à-dire le fait que vous avez vos cellules et puis, à plusieurs endroits, des liaisons qui étirent la membrane par l'intermédiaire de la formation de ces desmosomes. Donc c'est ça qu'avaient vu les histologistes initialement et qui a pu être ensuite expliqué en termes cellulaires. Donc vous voyez quand même quelque chose d'extrêmement cohérent dans les bases moléculaires de la structure de la peau. Et juste, on y revient rapidement, la couche cornée et la couche granuleuse. Et vous voyez peut-être quelques structures, comme je vous l'ai mentionné, cette couche spineuse avec ou épineuse avec ces éléments qui sont expliqués donc par la présence d'accrochage par l'intermédiaire des desmosomes. Alors juste un petit mot sur les kératinocytes en dehors de leur aspect finalement de structure de la peau, et on le verra bien entendu tout de suite après, leur rôle dans la défense anti-infectieuse cutanée, donc leur rôle essentiel dans la barrière anti-infectieuse. Le fait que, et ça va très bien entendu dans le rôle de lutte de la peau contre ou de prévention contre les rayons ultraviolets par exemple, le fait qu'existe de façon dispersée au niveau de la peau dans l'épiderme des cellules particulières qui s'appellent des mélanocytes. Et ces mélanocytes produisent en fait des granules qui sont synthétisés, passent par le Golgi et ensuite sont sécrétés à l'extérieur par une machinerie de trafic et d'exocytose cellulaire tout à fait classique, qui va impliquer des molécules comme des petites GTPases, par exemple RAP27, une autre molécule qui s'appelle SLAC2, une myosine, la myosine 5A, qui va assurer la motilité de ces mélanosomes, qui vont d'abord migrer sur des microtubules et puis ensuite s'associer au cytosquelette d'actine sous-corticale et être exocytosées. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces vésicules qui contiennent de la mélanine sont exocytosés et en fait endocytosés immédiatement par les kératinocytes. Et bien entendu, parce que vous savez tout ça, le bronzage vient essentiellement de cette diffusion, c'est-à-dire de la dispersion de ces mélanocytes produits mélanosomes produits par les mélanocytes qui sont acquis par les kératinocytes qui se dispersent dans la peau et qui augmentent bien entendu globalement sa protection contre les rayonnements. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et on voit là des choses parfois assez fascinantes, je dirais, dans l'évolution et dans la coévolution des tissus avec des éléments de l'environnement, d'un côté, par exemple, les rayons ultraviolets, de l'autre côté, les agents infectieux. Claude Griselli, qui est un de nos grands pédiatres et qui, dans les années 60-70, a vraiment lancé la médecine pédiatrique des déficits immunitaires, avait identifié un syndrome qui, d'ailleurs, lui a été très justement rapporté, qui s'appelle le syndrome de Griselli, qui se manifestait, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a plusieurs formes, mais essentiellement par la présence de vitiligo, c'est-à-dire d'anomalies de pigmentation de la peau et de déficits immunitaires avec des infections extrêmement sévères, en particulier d'origine virale. Et on a pu plus récemment montrer qu'effectivement, la raison de ce syndrome qui semblait totalement paradoxal, je veux dire, comment peut-on associer une anomalie de la pigmentation cutanée et une anomalie de la résistance aux agents infectieux, en particulier viraux, était liée au fait que cette petite GTPase RAP27 en fait, est mutée dans le cadre de ces syndromes de Griselli, qu'elle est nécessaire à l'exocytose à la fois des mélanosomes à partir du mélanocyte de manière à ensuite se disperser dans les kératinocytes, et elle est nécessaire aussi pour que une certaine population de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes natural killer soit susceptible de libérer des facteurs antimicrobiens qu'on appelle des perforines qui vont aller faire des trous dans les membranes ou dans les structures des virus et permettre la défense anti-infectieuse. Donc, de temps en temps, par le biais finalement de la co-utilisation de molécules clés dans la régulation des systèmes, sortes de coïncidences un petit peu bizarres qui font aussi parfois s'interroger sur finalement la nature et la façon dont la coévolution de l'animal avec son environnement a pu se mettre en place. Alors, si on essaye d'avoir une vision peut-être un petit peu plus dynamique de cette barrière cutanée, on peut dire qu'il existe donc un élément de base sur lequel l'ensemble du système va s'organiser qui va être ce qu'on a dit là, c'est-à-dire les kératinocytes, en particulier la fonction de barrière physique, et on va y revenir bien entendu, leur capacité de produire des effecteurs antimicrobiens. Mais on va aussi avoir, de façon physiologique et bien entendu en réponse à un événement pathologique comme une agression infectieuse, la mobilisation de cellules qui vont venir à partir de tissus sous-jacents, en particulier éventuellement du derme vers l'épiderme ou de la circulation, des cellules qui sont très proches, très disponibles, surtout dans le derme, comme les mastocytes, qui sont très très riches, sont des cellules myéloïdes très riches en enzymes protéolytiques, en chimio-attractants, en cytokines, qui vont permettre de mettre en place la signalisation anti-infectieuse, et des cellules dendritiques. On va revenir sur les cellules dendritiques qui sont vraiment un élément extrêmement dynamique, mais en même temps permanent, à la fois dans le derme et dans l'hypoderme, avec des fonctions très particulières. Et retenez d'emblée une variété très caractéristique de la peau pour ce qui concerne les cellules dendritiques, d'une cellule qu'on appelle la cellule de Langerhans. Et puis, bien entendu, en cas d'infection, comme dans n'importe quel tissu, venant des capillaires, un recrutement massif, extrêmement efficace de cellules inflammatoires, des plaquettes, qui vont elles-mêmes produire des substances pro-inflammatoires qui vont amplifier la cascade de signalisation et amener l'attraction d'autres cellules, de polynucléaires neutrophiles, bien entendu, avec la production de radicaux oxygène, la production de NET, on y reviendra, vous aurez un séminaire là-dessus à la fin de cette série de cours, des enzymes protéolytiques, le processus de phagocytose, des macrophages qui vont assurer la phagocytose, médier l'inflammation, mais en même temps jouer très rapidement un rôle dans la réparation en produisant des substances, des facteurs qui vont activer les processus de réparation infectieuse, car il n'y a pas finalement de lutte contre un processus infectieux dans l'organisme, on en a déjà parlé, sans déjà la programmation de la réparation du tissu, et des lymphocytes T dont la fonction va être orchestrée, encore une fois, par ces cellules dendritiques qui sont là un peu en sentinelle, dispersées entre les kératinocytes ou présentes dans le derme. Alors, c'est donc ça sur lequel je voulais un peu insister, c'est cette espèce d'intégration entre les kératinocytes, la barrière cutanée stricto sensu et la présence de ces cellules de Langerhans ou des cellules dendritiques en général et comment les deux se mettent en place dans ces processus de défense anti-infectieuse. Mais vraiment, encore une fois, pour ce qui concerne un micro-organisme, une bactérie à laquelle la peau est exposée, la première barrière, la plus efficace manifestement, en tout cas à court terme, est une barrière innée qui repose largement sur les kératinocytes, qui sont donc plus qu'un obstacle mécanique à la protection à la progression des micro-organismes dans l'épiderme. Ce sont des cellules qui vont produire un certain nombre de substances anti-infectieuses et qui vont pallier, en tout cas dans un premier temps, à l'absence de vascularisation de l'épiderme. Il va falloir que l'essentiel du travail, si je puis dire, initial, soit fait par ces cellules pour contenir la progression éventuelle des agents infectieux. Et donc ces cellules sont caractérisées, et elles ont d'ailleurs servi, curieusement, à identifier historiquement un certain nombre de molécules anti-infectieuses. Elles sont très riches en lysosomes. Elles sont très riches en une RNase qui s'appelle la RNase 7, qui est un spectre anti-infectieux très très large, qui est peut-être un des plus puissants des effecteurs bactéricides. Ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus étudié. Elle a un rôle bactéricide sur Enterococcus faecalis en particulier, ce qui permet de, et on reviendra sur d'autres agents anti-infectieux ou d'autres molécules anti-infectieuses, permet d'éviter la contamination cutanée par les bactéries de la flore intestinale. Et puis, une série de molécules sur lesquelles je vais revenir, qui sont la psoriasine, dont le nom vous dit tout de suite quelque chose quant à l'origine de sa découverte, les bêta-défensines et les catélicidines. Alors, ça, c'est une expérience tout à fait... Oui, je pense qu'on voit suffisamment. Tout à fait drôle que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs si ça vous amuse. Mais ce qui a été fait dans cette expérience, c'est d'individus que vous voyez là, s'est lavé les mains, on lui a demandé de se laver les mains, et puis on lui a demandé de plonger sa main gauche dans une culture de Staphylococcus aureus et sa main droite dans une culture d'Escherichia coli. Puis on a attendu une demi-heure environ, et au bout d'une demi-heure, on lui a demandé de mettre ses doigts, les phalangettes, sur un milieu, sur une boîte de pétri, avec un milieu de culture tout à fait propice à la croissance de Staphylococcus aureus et Escherichia coli, qui sont d'ailleurs des germes qui poussent à peu près sur n'importe quoi. Et ce que vous voyez de façon tout à fait spectaculaire, c'est qu'après incubation sur la nuit de ces deux boîtes de pétri, on a Staphylococcus aureus dans cette boîte-ci, mais on n'a rien du tout. C'est-à-dire les souches d'Escherichia coli avec lesquelles l'individu avait contaminé ses doigts ne poussent pas, ce qui veut dire qu'en fait, la peau, en réalité, éradique très très rapidement Escherichia coli et la plupart des entérobactéries de la famille d'Escherichia coli, comme les klebsiels, les Serratia et autres micro-organismes qui sont en particulier présents dans le tube digestif. Encore une fois, on revient un peu sur cette notion du fait que probablement la flore intestinale est quelque chose d'extrêmement délétère potentiellement pour la peau et qu'une partie de la pression sélective sur le développement de ces mécanismes immédiats anti-infectieux a un petit peu reposé là-dessus. Donc on a là un exemple typique d'une peau qui, en fait, essentiellement dans sa superficialité, car les micro-organismes ne sont probablement pas allés très très loin à l'intérieur, je vous ai dit à quel point les choses étaient défendues sérieusement. Néanmoins, quelque chose de relativement tolérant pour le staphylocoque, qui est d'ailleurs possiblement un élément de la flore résidente de la peau, et de très agressif et de très efficacement anti-infectieux pour Escherichia coli. Donc ça, c'est un joli travail qui a été publié en 2004 par le groupe de Jens Schröder à Brême, en Allemagne, qui est un peu l'homme, c'est un biochimiste, Jens, qui est un peu l'homme qui a, je pense, un de ceux qui a fait le plus de contributions sur la connaissance de ces molécules antimicrobiennes cutanées, en particulier de ces peptides antimicrobiens. Je ne vous ai pas mis de photos parce que ce n'est pas très joli, mais beaucoup de ce travail a été fait à partir de squames de patients atteints de psoriasis. Donc, récupérait des squames dans des services de dermatologie, lisait les squames, séparait les protéines constituantes et tombait au fur et à mesure sur un certain nombre de pics protéiques qui montraient que les kératinocytes avaient une très très forte activité de production de ces peptides antimicrobiens, en particulier dans des situations d'inflammation aiguë ou chronique, comme on les observe dans les poussées de psoriasis. Donc le psoriasis a été, il y a des bons côtés aux maladies de temps à autre, la circonstance pathologique qui a permis à la fois d'identifier un certain nombre de ces molécules antibactériennes, d'où le nom de psoriasine par exemple, et en même temps de montrer leur fonction. Donc, protection contre Escherichia coli assurée par une protéine principale qui va s'avérer être cette fameuse psoriasine dont on a déjà parlé et qui va probablement jouer un rôle essentiel à la fois dans l'homéostasie en période de situation non transitionnelle, mais aussi éventuellement dans des situations très très importantes. Vous imaginez par exemple, c'est même assez miraculeux quand on y pense, la situation du bébé qui naît, on a parlé de médecine périnatale la semaine dernière, et qui se retrouve passé en quelques minutes, au fond, d'un environnement stérile à un environnement, non pas nécessairement infectieux, heureusement, ce n'est plus le cas dans les maternités, mais un environnement où il y a des micro-organismes, ne serait-ce que dans un accouchement par les voies naturelles, passer la filière vaginale correspond immédiatement à une mise en contact de la peau de ce nourrisson, de ce nouveau-né avec des micro-organismes. Et on a du mal finalement à imaginer comment cette première rencontre d'un bébé tout neuf et tout stérile ne va pas amener à des catastrophes plus dramatiques que ce qu'on voit au jour le jour. Ce qu'on voit parfois, c'est dans les 24-48 heures qui suivent la naissance, quelques petites inflammations, la peau un peu rouge, quelques lésions granulomateuses, mais quasiment rien. Et ça, c'est vraiment lié à l'existence de ces molécules antimicrobiennes, très probablement, qui permettent d'assurer, y compris dans ces périodes tout à fait critiques de la vie, des mécanismes de défense efficaces, et en particulier pour certaines d'entre elles, comme la psoriasine, le fait, je vous le montrerai dans une diapositive, qu'elle est vraiment exposée à la surface de la couche cornée, c'est-à-dire qu'elle est là en première barrière contre l'irruption des micro-organismes. Donc un très joli travail qui permet aussi de commencer à voir un certain degré de spécificité dans ce qu'on appelle maintenant de façon générique les peptides antimicrobiens. Alors la psoriasine, c'est ça qui est aussi tout à fait intéressant. Je parlais tout à l'heure de problèmes de co-adaptation et autres, qui s'appelle d'un terme plus technique S100A7. En fait, c'est une protéine qui lie le calcium et qui est en fait un membre parmi d'autres d'une grande famille de protéines qui contiennent ce qu'on appelle des IF-HANS, ce sont des structures tridimensionnelles qui permettent de lier le calcium, et donc le calcium est nécessaire à leur activité. Et ces protéines, en fait, sont, pour l'ensemble de cette famille des protéines S100, localisées dans le cytoplasme ou dans le noyau des cellules, et elles sont impliquées dans un large spectre de fonctions, dans la régulation du cycle cellulaire, dans la différenciation cellulaire. Il y en a au moins 13, dont les gènes sont regroupés dans le chromosome 1 chez l'homme. Et en fait, cette psoriasine, elle diffère un tout petit peu des autres parce que sur les deux IF-HANS, je suis désolé, c'est comme ça qu'on les appelle, l'une d'entre elles, celle qui est du côté N-terminal, c'est les deux structures hélicoïdales en bleu qui sont montrées sur la molécule ici, n'est pas capable de lier le calcium. On ne sait pas très bien la relation que cela peut avoir avec une certaine différenciation de cette molécule et le fait qu'elle soit devenue pour l'essentiel une molécule anti-infectieuse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rôle plus général dans les fonctions cellulaires, ça veut simplement dire que encore une fois, l'évolution a fait que certaines molécules de signalisation ou que certaines molécules effectrices ont été amenées à effectuer des fonctions qui n'étaient pas nécessairement prévues initialement et que sous pression sélective du monde microbien, certains éléments ont été ou sont utilisés pour mettre en place les défenses anti-infectieuses. Alors vous voyez par exemple dans ce marquage fait par donc, cette équipe de Jens Schröder, la présence, c'est le marquage en rouge, vous reconnaissez maintenant la structure générale de la peau, cette protéine, la psoriasine, qui est exprimée essentiellement par les cellules au-dessus du stratum basalé jusqu'en haut, quasiment à la couche cornée. Le fait qu'il existe des irrégularités d'expression, vous voyez, certains endroits, elle est très exprimée, dans l'autre, elle ne l'est pas, c'est un peu mosaïque, mais ça, c'est à l'état de base. Dès qu'il y a un processus inflammatoire, elle est surexprimée massivement et à tous les niveaux. Et le fait qu'on la retrouve aussi exprimée, par exemple, dans le follicule pileux, très haut, dans une zone, bien entendu, qui peut, elle aussi, être exposée à la présence de micro-organismes, en particulier d'entérobactéries issues de la flore cutanée. Donc, ce n'est pas une espèce d'inondation globale du tissu cutané par l'expression de cette molécule, ce sont vraiment des localisations très précises, y compris, je ne sais pas si je l'ai mentionné, au niveau des glandes sébacées. Donc vous voyez que tous les organes, un peu, organes entre guillemets, toutes les structures fonctionnelles spécifiques de la peau, telles que j'ai essayé de les définir, sont associées à l'expression de ce type de molécule comme la psoriasine. Alors, ce qui est très intéressant aussi en termes d'évolution, c'est que je vous ai entouré en rouge finalement les zones où cette molécule est la plus exprimée, la psoriasine. Et en fait, on pourrait presque dire que c'est une règle générale pour l'ensemble des peptides antimicrobiens produits par les kératinocytes. Elle est essentiellement au niveau, comme vous le voyez, de la face et du cuir chevelu, essentiellement au niveau des creux axillaires, de la zone palmaire et de la zone plantaire. Donc dans des zones qui sont finalement des zones très exposées éventuellement à des contaminations microbiennes, en particulier dans les zones où il y a énormément de follicules pileux, comme le cuir chevelu, des zones relativement humides, comme les creux axillaires, et la paume des mains et la plante des pieds. Vous pouvez imaginer que c'est quand même notre zone d'interaction majeure avec l'environnement, en tout cas en termes de contact direct. Donc une impression quand même d'un ajustement progressif de l'expression de base de ces produits antimicrobiens à, disons, la fonctionnalité particulière des surfaces de la peau qui sont concernées, ce qui est quand même assez fascinant. Alors, on a parlé de la psoriasine. Il y a d'autres peptides antimicrobiens. Il y a en particulier une famille qu'on appelle la catélicidine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, comme vous le savez, j'essaye de mettre pas mal d'informations sur mes diapositives pour que les personnes qui accèdent à ces fichiers puissent avoir en particulier les références bibliographiques indispensables. La catélicidine, c'est une molécule dont on comprend mal finalement jusqu'à quel point elle peut avoir une fonction anti-infectieuse, car telle qu'elle est présentée là, avec très peu de contraintes, il n'y a par exemple pas de pont disulfure, on est en présence d'une molécule qui est relativement, possiblement fragile et facilement hydrolysée par des protéases. Néanmoins, la catélicidine est un des éléments clés de la défense anti-infectieuse, avec chez l'homme une nomenclature, elle s'appelle H pour homme, CAM, et on voit très souvent un slash et le terme LL37 qui en fait correspond au fait que la forme active bactéricide de la catélicidine suit un clivage après quelques acides aminés au niveau N-terminal et libère la structure lytique de la molécule. Donc il y a un élément en deux temps là-dedans. Il y a à la fois la production de la molécule et la nécessité de sa maturation de cette promolécule pour libérer cette molécule LL37 qui a cette fonction anti-infectieuse. Donc c'est un autre élément de la panoplie anti-infectieuse qui est d'ailleurs de façon intéressante exprimée de manière constitutive, sans nécessité d'induction au niveau du follicule pileux, et par contre nécessitant l'induction par, encore une fois, une lésion, en particulier infectieuse, au niveau du reste de l'épiderme. Alors, on se pose toujours la question, pour ces peptides antimicrobiens, il y a une certaine difficulté à établir leur fonction anti-infectieuse et de s'assurer qu'ils sont bien là pour une fonction anti-infectieuse, dans la mesure où il y a énormément de redondance, hein, on en a déjà parlé, que ce soit dans le tube digestif ou ailleurs, et c'est la même chose dans la peau, il y a énormément de peptides antimicrobiens. Donc on arrive d'un côté à montrer in vitro en particulier que ces molécules purifiées, mises dans des conditions expérimentales correctes, sont bactéricides. Mais lorsqu'on élimine un de ces éléments d'une manière ou d'une autre de l'organisme, on ne trouve pas véritablement de diminution très très importante de l'efficacité anti-infectieuse, dans la mesure où il y a tellement de redondance que probablement certaines molécules, les autres molécules remplacent celle-là. Pour LL37 néanmoins, ou en tout cas pour ce qui est l'équivalent de LL37 chez la souris qui s'appelle Cramp, il y a sans doute un des papiers les plus jolis et les plus convaincants sur le rôle de la catélicidine dans la protection anti-infectieuse de la peau en présence d'un micro-organisme pathogène. C'est un travail qui a été qui n'est pas récent puisqu'il a été publié en 2001 par Victor Nizet, qui était un peu au début de sa carrière aux États-Unis dans le laboratoire de Richard Gallo à San Francisco, où il finalement commençait à s'intéresser et à essayer de détailler un petit peu les fonctions respectives de ces molécules antimicrobiennes. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est de générer une souris knockout, donc délétée du gène de Cramp, qui est encore une fois l'équivalent murin de la catélicidine ou de LL37. Et ce qui était très clair dans ce qui est montré là expérimentalement, c'est que lorsqu'on regardait la taille des lésions après inoculation cutanée avec un streptocoque pathogène qui est Streptococcus pyogenes, qui donne des lésions chez la souris, on voyait que la souche donnait lieu à des lésions beaucoup plus larges et beaucoup plus détériorées sur quand on s'adressait à une souris dont le gène de la catélicidine avait été détruit, alors qu'on avait des lésions, disons, standards, classiques, lorsqu'on s'adressait à une souris wild-type, sauvage, et de façon très intéressante, en fait, quelque chose d'intermédiaire chez les hétérozygotes, c'est-à-dire ayant une destruction du gène uniquement sur un allèle. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, en corollaire de ça, il y avait beaucoup plus de bactéries isolées des lésions des souris knock-out pour le gène de la catélicidine par rapport à la souris sauvage. Et puis, bien entendu, vous le voyez là sur la photo du haut, qui est retranscrite ici sur les courbes, les lésions cutanées beaucoup plus sévères, beaucoup plus profondes, beaucoup plus creusantes chez les animaux n'ayant pas la capacité de produire cette catélicidine et soit ne se guérissant pas, soit se guérissant beaucoup, beaucoup plus tardivement que les lésions induites chez l'animal sauvage. Donc une vraie preuve expérimentale chez la souris pour cette catélicidine particulière d'une fonction anti-infectieuse avec un micro-organisme qui est un vrai pathogène de la peau, comme vous le savez sans doute, qui est Streptococcus pyogenes, ce qu'on appelle vulgairement le streptocoque A. Alors, d'autres peptides antimicrobiens sont d'ailleurs très proches de ceux qu'on observe, voire identiques, dans le tube digestif. C'est quelque chose qui traverse absolument, en termes de production, tous les épithéliums. C'est ce qu'on appelle la bêta-défensine, bêta-défensine 2, bêta-défensine 3. Et vous voyez dans les structures qu'il s'agit de petits peptides d'à peu près 50 à 60 acides aminés dans la forme initiale, très contraints avec ces ponts disulfures qui vont faire des molécules extrêmement denses et très résistantes aux protéases dans tous les environnements en fait, dans lesquels ces molécules vont être produites. Et lorsque vous regardez, par exemple, une souche de Staphylococcus aureus exposée pendant peu de temps, finalement 30 minutes, à une concentration de 10 millimolaires de HBD3, qui est une concentration tout à fait facilement obtenue dans la peau, vous voyez très rapidement survenir des lésions de la surface du micro-organisme, ce qui est comme littéralement percé par la présence de ces peptides antimicrobiens. Et on voit d'ailleurs déjà des contenus intérieurs du micro-organisme se libérer dans le milieu extracellulaire, ce qui va bien entendu aboutir rapidement à la mort de ce micro-organisme. Donc des molécules avec un pouvoir antibactérien extrêmement puissant. Alors, on a parlé de psoriasine, on a parlé de catélicidine, on a parlé de bêta-défensine. Elles partagent toutes, en fait, ces molécules, plus ou moins, des propriétés similaires en termes d'activité bactéricide. Alors, ces activités bactéricides, elles peuvent se manifester à plusieurs niveaux sur un micro-organisme cible. Ça peut être par modification, blocage en fait, de la biosynthèse de ce qu'on appelle le mur bactérien, c'est-à-dire le peptidoglycane, c'est-à-dire que la bactérie va être incapable de synthétiser son cytosquelette et va finalement exploser, car le mur bactérien permet aussi de maintenir une résistance aux éléments osmotiques et à garder à la bactérie à la fois sa forme et sa réalité physique. Ça peut être l'inhibition de protéases ou d'autres activités enzymatiques qui sont essentielles à la fonction bactérienne. Ça peut être l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques et des protéines bactériennes. Ça peut être une liaison à l'ADN, mais c'est probablement d'abord et avant tout la formation de pores membranaires. Et il est fort probable que toutes les autres observations ici sont en fait essentiellement des conséquences et des éléments secondaires en cascade à un événement initial qui est la formation de pores membranaires. Parce que ce que ces molécules ont de tout à fait intéressant lorsqu'on reconstitue leur structure tridimensionnelle, c'est qu'elles sont amphipathiques, c'est-à-dire qu'elles ont un côté, si l'on peut dire, ou en tout cas un domaine qu'on appelle hydrophobe, avec des acides aminés hydrophobes, qui vont leur permettre finalement d'interagir et de s'intégrer dans la membrane de la bactérie, et un domaine hydrophile qui va leur permettre, une fois intégrés, de former véritablement un pore qui va, bien entendu, libérer, vous avez vu, les composants intracellulaires ce qui va amener rapidement à ces cascades d'événements qui vont mener à la destruction du micro-organisme. Donc des peptides extrêmement sophistiqués dans leur capacité d'interaction avec les membranes cellulaires. Alors on s'est beaucoup posé de questions malgré tout sur leur rôle réel. Je pense qu'il n'est pas discuté maintenant que c'est un des éléments essentiels de la fonction de protection. Il y a un certain nombre d'éléments en matière de pathologie qui apportent des informations supplémentaires. Par exemple, au cours du psoriasis, j'ai déjà mentionné bien entendu à quel point le psoriasis avait été une source d'identification de ces molécules antimicrobiennes. Il y a très clairement, dans les périodes de poussée, une surexpression parfois massive de ces molécules antimicrobiennes, en particulier, bien entendu, de la psoriasine, mais aussi des autres, HPD3, qui a été découvert de la même façon. À l'opposé, les patients, les enfants en particulier, atteints d'eczéma atopique aigu ou chronique, ont une diminution des peptides antimicrobiens. Ça a été montré clairement pour HBD2, HBD3 et la catélicidine LL37. Et ils sont inversement, contrairement aux patients psoriasiques, extrêmement sensibles aux infections cutanées, et en particulier aux infections à Staphylococcus aureus, au staphylocoque. Donc ça, sont des éléments qui amènent à penser qu'il y a effectivement une corrélation, mais ça n'est rien de plus qu'une corrélation. Et on manque effectivement à l'heure actuelle beaucoup d'éléments de confirmation. Il y a une approche analytique que je vous ai mentionnée avec cette fameuse souris knockout pour le gène de la catélicidine qui est hypersensible à l'infection par Streptococcus pyogenes. Je pense que c'est un élément essentiel dans la réflexion. Ce qui nous manque un petit peu, je pense que ça va venir peu à peu, c'est une vraie approche systématique de génétique humaine recherchant, à l'occasion d'un certain nombre de maladies cutanées, inflammatoires ou infectieuses, l'existence possible de mutations, soit dans le gène, soit dans les systèmes régulateurs de l'expression de ces peptides antimicrobiens. Par exemple, dans ce qu'on appelle les genome-wide scans qui ont été faits sur les patients atteints de psoriasis, on n'a pas trouvé, et de la même façon pour l'eczéma, de marqueurs par rapport à des gènes codant pour des peptides antimicrobiens. Donc il y a des choses encore qui sont à clarifier dans tout ça, qui sont d'ailleurs tout à fait passionnantes. Donc globalement, on est dans une situation néanmoins où, à l'état de base, la peau produit de façon constitutive un certain nombre de molécules anti-infectieuses, mais lors d'une stimulation par un processus inflammatoire, éventuellement bien entendu secondaire à une inflammation, va se mettre à exprimer de façon beaucoup plus importante les molécules qui étaient déjà là de façon de base, et puis à induire véritablement l'expression de molécules, par exemple, comme les bêta-défensines et la catélicidine. Donc le système, bien entendu, s'adapte apparemment de façon très efficace à l'existence de ces stimuli. Et encore une fois, pour revenir sur l'idée qu'il existe très probablement à la surface de la peau, sans même nécessité d'induction et de trafficking extrêmement, qui aurait besoin d'être extrêmement rapide, bien entendu, en cas d'urgence, il existe à la surface de la peau, au moins pour la psoriasine, une localisation un peu immédiatement, en premier contact, en premier rideau, si l'on peut dire. Alors, ce qui est là encore aussi relativement fascinant, c'est la façon dont la nature a organisé tout ça et a fait d'une pierre deux coups ou probablement plusieurs coups. Ce qui a été montré très très récemment, c'est que dans les cellules finalement du stratum granulosum, qui sont les dernières cellules véritablement vivantes avant le stratum corneum, ces cellules produisent ce qu'on appelle des lamellar bodies, des corps lamellaires, ou qu'on appelle encore maintenant, ou qu'on appelle kératinosomes. Vous en voyez ici, finalement, à cette interface entre les cellules granuleuses et cette zone, finalement, qui va correspondre à la mise en place du stratum corné. Et en fait, ce qui était montré très récemment, c'est que ces kératinosomes, en fait, qu'on sait produire un certain nombre de molécules, en particulier des lipides, qui vont assurer cette cohésion du stratum corneum, qui vont s'insinuer en fait entre les cellules de la couche cornée et qui vont avoir par exemple cette fonction d'imperméabilisation de la peau, puisque bien entendu ces lipides sont très hydrophobes. En fait, les travaux ont montré récemment, c'est par exemple ce travail du groupe, encore une fois, de Richard Gallo, a montré en double marquage ici, avec en rouge, vous avez un anticorps anti-catélicidine, anti-CAP18, dont on a déjà parlé, ou LL37, si vous voulez. C'est un marquage rhodamine. Et en vert, vous avez un marquage de l'involucrine, qui est une des molécules témoins de cette transition entre la couche granuleuse et la couche cornée, qui marque en fait la phase terminale de ces cellules de la couche granuleuse. Et vous pouvez voir qu'il y a en fait une colocalisation parfaite entre l'expression de ce peptide antimicrobien et l'expression de ce marqueur de ces cellules granuleuses en phase terminale. Et de façon plus précise encore, si on regarde ces kératinosomes que vous voyez ici très bien, ils sont doublement marqués par l'anticorps anti-involucrine et l'anticorps anti-CAP18. Ce qui veut dire en fait que dans ces kératinosomes qui sont chargés de la mise en place de cette matrice qui va protéger la couche cornée, on a à la fois des lipides et des peptides antimicrobiens, au moins un, mais il a été montré ultérieurement dans ce papier ici que les bêta-défensines étaient aussi dans cette cargaison en fait, d'éléments qui sont sécrétés par les cellules granuleuses et qui vont constituer cette zone tout à fait essentielle. Donc on est là dans un système de co-régulation qui est complètement cohérent et qui commence à être, comme vous le voyez, déchiffré de façon très très précise par un certain nombre d'études expérimentales. Donc on est là, et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est simplement synthétisé dans cette diapositive, dans des événements d'infection, de rupture, encore une fois, ou de solution de continuité de la peau par une agression physique donnant éventuellement lieu à l'irruption de micro-organismes, à l'induction très rapide, puisque finalement, du fait de cette rupture, les mécanismes naturels de résistance anti-infectieux sont submergés. La mise en place, l'induction très rapide d'éléments anti-infectieux liés en particulier à l'expression de ces peptides antimicrobiens. En parallèle, l'expression d'un certain nombre de molécules régulatrices qui font de plus en plus penser que ces peptides antimicrobiens qu'on imaginait initialement uniquement comme des molécules bactéricides sont en fait très probablement des molécules de signalisation qui sont au carrefour de mécanismes complexes d'adaptation de ce tissu à ces processus éventuellement agresseurs et destructeurs. Et il y a une vraie science qui est en train de se développer à l'heure actuelle au sujet de ces peptides antimicrobiens, voire d'autres molécules finalement relativement proches, qui est d'essayer de comprendre comment, à partir de cette situation initiale de rupture, de destruction, d'infection qui va amener à l'induction de l'expression de ces molécules vont aussi s'intégrer dans un réseau de signalisation qui va amener à la mise en place et à la programmation des processus de réparation tissulaire. Et on trouve de plus en plus, finalement, de cohérence et de proximité. Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin entre les éléments justement d'induction de ces processus de mise en place de facteurs antimicrobiens et l'activation des cellules souches cutanées qui sont pour beaucoup d'entre elles localisées au niveau d'une zone très particulière. Ce sont les travaux d'Hélène Fuchs aux États-Unis à Rockefeller University ces dernières années, localisées dans une partie très spécial, intermédiaire dans le follicule pilosébacé qui s'appelle le bulge, et que en condition finalement physiologique, mais aussi sous stimulation, encore une fois, par des facteurs qui commencent à être connus et où le rôle des peptides antimicrobiens nécessite d'être intégré, ces cellules vont bien sûr donner lieu à des divisions asymétriques et
à la formation de nouveaux kératinocytes. Elles vont ensemencer, par exemple, la papille dermique et pouvoir donner lieu à la régénération. Donc il y a un vrai travail à l'heure actuelle qui se développe, et peut-être Gérard Hort pourra nous en parler plus précisément sur certains aspects d'infection virale, qui est tout à fait fascinant et qui nécessite, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de commencer dans la réflexion sur la compréhension des mécanismes infectieux, à ne pas regarder que la réponse anti-infectieuse, mais à regarder aussi ce qui est pas encore véritablement dans le collimateur suffisamment, tout ce qui concerne la programmation de la régénération tissulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ce système de peptides antimicrobiens de si complexe qu'on ne s'arrête pas là. L'autre cellule ou l'autre type de cellule qui est présente dans l'épiderme, c'est la cellule dendritique et en particulier la cellule de Langerhans. Donc ça, c'est une série d'informations pour ceux qui seront intéressés à lire et avoir des références. La cellule de Langerhans est en fait une cellule dendritique, c'est-à-dire une cellule présentatrice d'antigènes. Alors elle est issue de la cellule souche CD34+, qu'on trouve dans les organes hématopoïétiques, mais avec une variété particulière qu'on appelle les progéniteurs myéloïdes, qui vont donner lieu à des précurseurs, soit de la cellule de Langerhans, soit de ce qu'on appelle les cellules dendritiques interstitielles. La cellule de Langerhans est dans l'épiderme, la cellule dendritique interstitielle est dans le derme, et ça sont ce qu'on appellerait les cellules dendritiques un petit peu plus classiques, en particulier les cellules dendritiques plasmocytoïdes qu'on va retrouver dans les ganglions, par exemple. Donc on a là une vraie sous-population avec ses marqueurs caractéristiques présentes dans l'épiderme et dans le derme. Et vous voyez ici, vous regardez simplement cette partie de la diapositive, vous voyez qu'en plus de tous ces kératinocytes dont on a déjà largement parlé, on a ces cellules magnifiques dispersées au milieu de ces kératinocytes avec ces projections, ces extensions qui s'appellent des dendrites, d'où le nom de cellules dendritiques, qui sont donc caractéristiques de la présence à l'état de veille et du recrutement, bien entendu, en cas d'alarme, de cette sous-population, en particulier de cellules dendritiques, d'où encore une fois la qualité de la peau en termes de réceptacle d'injection d'antigènes pour la vaccination. Donc ces cellules vont faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire capturer l'antigène, le processer, le présenter en particulier avec les antigènes de classe 2 aux lymphocytes, et vont assurer finalement mise en place suite à cette réponse innée initiale de la réponse adaptative. Alors, quand on a dit ça, on a décrit la fonction, disons, de base des cellules dendritiques, mais on ne s'est pas attaché à ce que peut être éventuellement la fonction un peu particulière des cellules de Langerhans, qui, encore une fois, se retrouvent essentiellement au niveau cutané. Alors, les cellules de Langerhans, elles sont marquées par la présence d'un certain nombre de granules qu'on ne retrouve pas dans d'autres cellules dendritiques, qui s'appellent les granules de Birbeck, et que vous voyez ici en microscopie électronique, c'est une espèce d'empilement d'assiettes qui correspond pour beaucoup à une juxtaposition de membranes lipidiques, mais bien entendu avec ces membranes lipidiques, il y a un certain nombre de molécules effectrices. Et une de ces molécules effectrices est l'angérine, hein, qui est mentionnée ici, CD207, dont la fonction jusqu'à présent n'était pas bien connue, et encore une fois, on imagine qu'elle est relativement spécifique de ces cellules de Langerhans. Alors, les animaux, les souris knock-out pour le gène de la langérine n'ont pas l'air d'avoir des déficits immunitaires majeurs, encore qu'on anticipe de plus en plus que peut-être il y aurait une fonction dans la présentation des antigènes non peptidiques, non pas donc par les classes 2, mais par ces fameuses antigènes de type CD, et en particulier CD1A. Mais ce qui a été montré aussi très récemment, c'est qu'il y avait peut-être des fonctions antivirales directes, et ça mettrait quand même encore une fois ces cellules de Langerhans dans une fonction à la fois de mise en place classique de la réponse adaptative, mais vraiment en fonction dans les réponses innées, immédiates à la présence d'un agent anti-infectieux. Il y a en particulier plusieurs jolis travaux ces dernières années qui ont montré que l'expression de la langérine à la surface de la cellule dendritique, en fait, représentait une barrière naturelle à l'infection par le virus VIH, lorsqu'il est transmis éventuellement par voie transcutanée, et qu'en réalité, ce que faisait la langérine, c'était de capturer le VIH, de l'endocyter et de l'amener immédiatement dans un compartiment de dégradation qui permettait bien entendu sa destruction et éventuellement la présentation des antigènes, si tant est que ça aboutisse à quelque chose d'efficace dans le cas du sida, mais néanmoins une vraie fonction innée de protection anti-infectieuse qui peut-être en dit assez long sur le fait que ces cellules sont associées aux kératinocytes est capable, au-delà de la capture des virus, de capturer d'autres micro-organismes et de les amener à des pathways de dégradation dans la cellule tout à fait efficaces. Donc un vrai, encore une fois, un peu une confusion des rôles, mais qui est probablement fait du sens dans le contexte de la peau, qui, encore une fois, la zone épidermique est dénuée de vascularisation, donc il faut qu'elle traite les choses de façon rapide et efficace, et donc pas mal de superposition a dû se faire, et même encore plus de superposition qu'on ne l'imagine, puisque des travaux récents montrent qu'il y a une vraie coopération entre les peptides antimicrobiens, les défensines, et la qualité et l'efficacité de la présentation des antigènes par la cellule dendritique. Donc on est là dans un autre processus, peut-être un peu plus tardif, mais tout à fait essentiel. Donc, pour la toute dernière partie de cette présentation, je vais essayer d'aller maintenant, après avoir essayé de vous donner une définition de cette barrière cutanée, de voir un peu, en termes fonctionnels, comment tout ça se met en place par rapport à la flore microbienne. Donc on a parlé d'un réseau intégré de défenses innées avec des éléments intrinsèques, avec des éléments extrinsèques recrutés, les cellules du système immunitaire. On a maintenant à faire face à cette flore commensale, à ce microbiote qui va, comme d'habitude, on en a déjà parlé pour d'autres systèmes, avoir, c'est un peu Janus, il y a une double possibilité. La première possibilité, bien entendu, que ces micro-organismes puissent infecter, ce qu'on ne veut pas. Mais comme on en a besoin, parce qu'ils jouent probablement un rôle protecteur eux-mêmes, il a fallu trouver un juste équilibre pour les maintenir en surface sans invasion. Donc cette flore cutanée, en termes de notre interface avec le monde microbien, elle a là encore probablement une fonction d'occupation de niche, on a déjà parlé de ces concepts, de compétition pour dénutrition, et de sécrétion de dérivés de métabolisme, l'acide acétique, l'acide propionique, par exemple, par un certain nombre de ces micro-organismes, a un pouvoir anti-infectieux et probablement d'autres substances. Donc, qu'est-ce que c'est que cette flore, cette microflore cutanée? Est-ce qu'il y a quelque chose de stable, de reconnaissable, et quelle en est la fonctionnalité? Alors, c'est assez drôle, j'ai repris cette expression parce que un auteur, Marples, il y a quelques années, avait dit que finalement, c'est pour ça que le titre de la diapositive est écosystème cutané ou écosystème cutané au pluriel. En fait, il n'est pas du tout impossible qu'on regarde la peau un peu de façon globale, qu'en réalité, il y ait des écosystèmes différents. Vous avez vu tout à l'heure cette notion de niveaux différents d'expression des peptides antimicrobiens en fonction de cuir chevelu, du creux axillaire et des zones palmoplantaires. Donc il n'est pas du tout impossible que ceci traduise en fait simplement des variations à la fois quantitatives et qualitatives de la flore microbienne à un endroit donné de l'organisme. Et l'expression que je trouvais très jolie était qu'il y avait probablement la même distance pour des flores microbiennes entre l'aisselle et le thorax qu'entre la forêt vierge, la jungle et le désert. Et c'est ce qui est en train éventuellement d'être mis en évidence. Alors, jusqu'à présent, l'écologie microbienne de la peau a été faite essentiellement, classiquement, par la culture microbienne, ce qui fait que, bon, on a trouvé un certain nombre de micro-organismes et on a beaucoup essayé de rapporter éventuellement ces micro-organismes, sans succès d'ailleurs, à la cause d'un certain nombre de pathologies cutanées, la dermatite atopique, l'acné, rosacée, le psoriasis, la maladie de Verneuil, on peut éventuellement en dire un mot dans la discussion. Mais donc tout ça a été fait par des méthodes soit d'écouvillonnage, soit de grattage de la surface, soit éventuellement de ce qu'on appelle des punch biopsies, c'est-à-dire des prélèvements qui prennent en compte aussi l'ensemble de l'épiderme et éventuellement une partie du derme. Donc nos connaissances basées ensuite sur la culture ont permis d'identifier ce qui est un peu le squelette global de la flore cutanée, c'est-à-dire des espèces bactériennes en nombre finalement relativement limité, dominées par les staphylocoques, Epidermidis aureus, les micrococques, des corynébactéries non diphtériques, ce qu'on appelle des brevibacteria. Brevibacteria, c'est des bactéries qui se développent en particulier dans les zones humides de l'organisme, et c'est ça qui nous donne notre bonne odeur lorsqu'on est resté un peu trop chaud, trop longtemps, sans prendre de douche. Ce sont des microbes qui d'ailleurs ont des capacités métaboliques tout à fait passionnantes. Des propionibactéries, en particulier Propionibacterium acnes, des acinetobactères qu'on trouve partout d'ailleurs, et Pseudomonas aeruginosa et Streptococcus pyogenes, présents dans des situations un petit peu limites, très proches sinon en cas de véritablement d'infection. Et puis une espèce fongique prédominante, dont vous avez sûrement entendu parler, Pithyrosporum ovale, qui dans sa forme filamenteuse, invasive, qui probablement est largement en cause dans certaines pathologies cutanées, par exemple comme l'excès de squam, les pellicules et autres, donc va donner des ifs et va s'appeler Malassezia furfur, mais en fait c'est le même micro-organisme. Alors ça, c'est finalement une identification du microbiote cutané lié essentiellement à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aux cultures microbiennes. En fait, la question, c'est, comme dans la flore microbienne intestinale dont on a déjà souvent parlé, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que finalement, ces micro-organismes ne sont pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt, sachant que quasiment dans tous les écosystèmes qu'on commence à identifier maintenant par des méthodes d'analyse moléculaire, c'est-à-dire essentiellement par amplification de gènes codants pour les ARN 16S et séquençage, ou maintenant par ce qu'on appelle deep sequencing, c'est-à-dire qu'on séquence absolument en masse l'ensemble de l'ADN de la communauté bactérienne en question et on voit ensuite par analyse bioinformatique. Donc on est dans une situation où, en règle générale, la méthode microbiologique classique de culture ne va identifier que quelque chose entre 1 et 10% de la flore microbienne réelle. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la flore cutanée véritablement? On commence tout juste à voir dans la littérature, vous voyez la date des papiers, là c'est 2008, et ça a été vraiment, Elizabeth Grice, ça a été un des premiers papiers sur un essai d'analyse par méthode moléculaire, c'est-à-dire encore une fois par... Là, ça a été fait à partir de biopsies cutanées faites soit chez l'homme, soit chez la souris. Et ce qui est apparu dans les premières études, mais qui semble commencer à s'atténuer un petit peu dans les études suivantes, c'est que finalement, l'essentiel des micro-organismes qu'on observait n'étaient pas des micro-organismes identifiés par les méthodes de culture habituelles. Donc finalement, le profil bactérien cutané réel correspond largement à des gamma-protéobactéries, à des bêta-protéobactéries comme ce qu'on appelle les bulcolderiales, qui en fait n'étaient pas du tout dans la liste que je vous ai donnée antérieurement. Donc il y a un vrai travail qui se met en place actuellement d'identification très précise sur plusieurs individus, bien entendu, parce que ça va sans doute changer d'un individu à l'autre, ça va changer d'une localisation chez un individu à un autre, et les travaux supplémentaires qui ont été faits par le groupe d'Elisabeth encore, ça c'est publié dans Science il y a quelques mois, ont montré, bon, c'est un énorme travail de prélèvement à des endroits différents, sur 10 endroits différents, sur 20 individus avec des moyennes, vous voyez un petit peu l'importance du travail, commence à faire émerger en fait cette notion de cartographie différentielle des micro-organismes à la surface de la peau. Vous avez ici en bleu foncé et en vert, dans les zones sébacées, c'est-à-dire dans les zones grasses de la peau, des propionibactéries, des staphylocoques. Dans les zones humides, vous avez plutôt des corynébactéries, des bêta-protéobactéries, donc les bulcolderiales et des staphylocoques. Et dans les zones sèches, plutôt des bêta-protéobactéries et des corynébactéries éventuellement. Donc, tout doucement, on s'oriente vers une meilleure connaissance de cette flore globale, puisque les études sont réalisées par des méthodes moléculaires qui, théoriquement, apportent bien sûr moins de biais, encore qu'il y en ait, que la méthode de culture, à l'échelle de plusieurs individus et à l'échelle de zones différentes dans l'organisme. Donc on va avoir peu à peu une vision relativement globale et précise des flores microbiennes. Et à partir de là se pose véritablement la question qu'on s'était déjà posée pour les micro-organismes, par exemple de la flore intestinale, c'est des symbiontes ou c'est des pathogènes? Et en fait, on ne sait pas toujours. On trouve des staphylococcus dorés, staphylococcus aureus dans la peau, soit de façon parfaitement symbiotique, soit pour des raisons, par exemple, d'extrême humidité et de non-contrôle anti-infectieux, sous forme d'infections, en particulier d'abcès, de furoncles, c'est-à-dire d'infections du follicule pilosébacé. Donc il y a une espèce de barrière, de seuil quelque part, où la nature, finalement, symbionte d'un côté, pathogène de l'autre, est relativement mal définie. Et pour certains de ces micro-organismes, la bascule peut se faire d'un côté ou de l'autre, non pas en fonction des caractéristiques du microbe, mais en fonction des caractéristiques de l'environnement cutané dans lequel le microbe se trouve à un moment donné. Alors, la question classique se pose avec l'acné, qui a été discuté depuis des années comme étant possiblement une maladie infectieuse de la peau, sans qu'on ait véritablement pu apporter d'éléments vraiment convaincants. Inversement, certains dermatologues considèrent que, vu les conditions de survenue, c'est probablement quelque chose de très environnemental, avec des aspects très liés à la production de sébum par les glandes sébacées, chez l'adolescent, du fait d'un déséquilibre hormonal qui est caractéristique de cette période, et ainsi de suite, et tout le monde s'entre-déchire avec ça, sans qu'on puisse véritablement trouver quelle est la solution réelle. Alors, la microécologie microbienne du follicule pilosébacé, elle commence à apparaître, avec plutôt dans la moitié supérieure qui va vers la surface, donc avec de l'oxygène, des grammes plus, coagulase moins surtout, c'est-à-dire des staphylocoques, surtout épidermidis, des micrococques, des levures lipophiles, Pityrosporum ovale et là, ou Pityrosporum orbiculare. Et puis dès qu'on descend dans la partie profonde qui est anaérobie, la présence à l'état d'équilibre de cette bactérie qui fait partie de notre flore cutanée de base, donc largement dans ces zones, qui est Propionibacterium acnes. Donc la question, c'est déjà son nom, disait-ce qu'en pensaient ceux qui l'avaient découverte. La question, c'est finalement, est-ce un commensal ou est-ce que ça peut, dans certaines conditions, être un pathogène? Alors, sans vouloir essayer de rentrer dans le consensus mou sur cette question, ce qui semble quand même relativement clair, c'est que la lésion primaire de l'acné, qu'on appelle le comédon, commence très largement avant que la croissance de Propionibacterium acnes au niveau de ces lésions se soit mise en place. Donc il y a fort peu de chances que la bactérie elle-même soit le primum movens, soit la cause de la mise en place de ce comédon qui, encore une fois, probablement est lié, avec sans doute un terrain génétique pour certains individus, à la dysfonction de l'équilibre de la production sébacée et au fait que le canal finalement sébacé va être bouché et que c'est ça qui va donner lieu à la formation de ces comédons. Ceci étant, très rapidement, la flore de Propionibacterium acnes augmente, et alors même, c'est l'intensité du rouge qui le dit, que l'inflammation devient maximale, augmente, et que ces lésions d'acné donc prennent l'aspect efflorescent que vous connaissez sans doute chez nos pauvres adolescents. Et puis tout doucement, ou plutôt rapidement, on va voir Propionibacterium acnes redescendre alors que l'inflammation continue. Donc les gens disent, bon, bah, c'est pas Propionibacterium acnes, puisque l'inflammation continue alors que le micro-organisme est en train d'être détruit par cette inflammation. Est-ce qu'on peut trouver un consensus dans tout ça et dire qu'en réalité, certains commensaux, bona fide, de bonne foi, mis dans des conditions environnementales défavorables, vont devenir ou vont se, finalement, comporter comme des pathogènes? Et c'est probablement en grande partie ce qui se passe. Il est fort probable que la fermeture, je vous ai parlé des obstacles physiques de l'organisme, les voies urinaires, les voies biliaires, se traduisant systématiquement par une infection, il n'est pas du tout impossible que la fermeture du canal pilo-sébacé crée des conditions sous-jacentes d'absence de drainage à la fois des éléments de sébum et des micro-organismes qui créent les conditions pour la croissance massive du micro-organisme et que ce micro-organisme ait un rôle dans l'activation de ce processus inflammatoire et qu'en réalité, même s'il est détruit par ce processus inflammatoire, l'inflammation continue parce que le microbe laisse derrière lui tous ses pampes, tous ses composants structuraux qui vont continuer à stimuler l'inflammation. Donc il y a sûrement là quelque chose à réfléchir dans l'étude de la physiopathologie et encore une fois cette notion que pour certains micro-organismes, la notion de symbiose, de commensalisme ou de pathogénicité est très relative et dépend considérablement des conditions d'environnement qui sont créées par l'hôte. Alors, pour terminer en deux, trois diapositives, on a des vrais pathogènes de la peau. Encore une fois, à part peut-être Francisella tularensis, le germe responsable de la tularémie, la plupart nécessitent un petit peu d'assistance sous une forme ou une autre pour être introduit, mais un micro-organisme comme Staphylococcus aureus a la capacité de se développer dans la couche cornée de l'épiderme, sans d'ailleurs rentrer dans les cornéocytes. On voit que là, il reste véritablement dans cette espèce d'espace intermédiaire riche, encore une fois, en lipides. Et très probablement, un des marqueurs dominants de ces pathogènes de la peau, ça va être la résistance à ces peptides antimicrobiens qui va pouvoir s'exprimer par plusieurs types de mécanismes qui commencent à être vraiment très, très bien étudiés à l'heure actuelle. Alors, certains micro-organismes vont avoir la capacité, par des pompes à efflux, de chasser ces peptides antimicrobiens qu'ils ont éventuellement internalisés. D'autres mécanismes correspondent à des protéases qui sont sécrétées par ces micro-organismes et qui vont détruire en fait, les peptides antimicrobiens à distance dans leur environnement immédiat. On va avoir éventuellement des modifications des protéines de surface, voire des différences de charge qui vont empêcher la liaison de ces peptides antimicrobiens avec la surface et éventuellement avec les membranes cellulaires. On va avoir des molécules qui vont être libérées et qui vont servir de leurre, en fait, qui vont titrer les peptides antimicrobiens à l'extérieur de la bactérie et les empêcher de s'approcher de la surface. Donc, une diversité de stratégies absolument extraordinaire qui caractérise en particulier des micro-organismes comme Staphylococcus aureus et comme Streptococcus pyogenes, Streptoa, qui sont des vrais grands pathogènes cutanés. Donc je vais sauter ces quelques diapositives et terminer sur quelque chose de pas joli, mais qui permet tout de même de faire un point relativement efficace par rapport à tout ça. Ce pas joli, c'est quand... La chance que vous avez pour une fois, c'est que les photos montrent pas très très bien, donc vous ne voyez pas toutes les horreurs que ça représente. C'est ce qu'on appelle la fasciite nécrosante. C'est une maladie qui a d'ailleurs existé antérieurement, mais qui a pas mal émergé ces dernières années pour des raisons qu'on ne comprend pas très très bien, qui en fait correspond à une infection de la peau, mais qui va, avec cette souche de Streptococcus pyogenes du groupe A, donner lieu véritablement à une infection massive de tout ce qui est le tissu hypodermique. Donc la bactérie va pouvoir traverser l'épiderme, probablement encore une fois accidentellement, se développer dans le derme, infecter l'hypoderme et aller jusqu'à ce qu'on appelle les fascias, c'est-à-dire la peau névrose du muscle. Et le micro-organisme va véritablement progresser sous la peau et disséquer systématiquement la peau et la décoller. Et étant donné les altérations vasculaires importantes qui s'associent à tout ça, la peau va se nécroser et on va avoir ce qu'on appelle une fasciite nécrosante. Donc c'est une maladie absolument dramatique. Si elle n'est pas prise à temps avec un traitement antibiotique adapté, on peut avoir des dégâts cutanés majeurs et éventuellement des complications mortelles. Donc ça, c'est une pathologie qui est presque caricaturale de ce que ces micro-organismes font. Alors qu'est-ce que fait Streptococcus pyogenes pour assurer cette progression à travers, sous la peau, et ce développement finalement horizontal qui va lui permettre de disséquer la peau et entraîner sa nécrose. La première chose qu'il est capable de faire, c'est de se fixer aux cellules, et en particulier de s'associer à la surface des kératinocytes et aux membranes basales, comme la membrane basilaire ou éventuellement les éléments du tissu conjonctif de l'hypoderme. Et ça, il le fait, on le sait très bien maintenant, et c'est valable, ce que je vous dis aussi pour les infections à staphylocoque, par l'expression à sa surface de molécules qui sont d'ailleurs liées de façon très intéressante au peptidoglycane par une enzyme qu'on appelle une sortase. Et en fait, ces bactéries expriment à leur surface toute une panoplie de molécules qui leur permettent de se lier aux molécules de la matrice cellulaire, en particulier aux fibrinogènes ou aux collagènes et à d'autres éléments matriciels. Donc ces bactéries vont vraiment s'implanter, adhérer aux éléments structuraux, matriciels, en particulier du derme et de l'hypoderme. Ils vont, dans un deuxième temps, résister à la phagocytose par des approches, si je puis dire, extrêmement sophistiquées, comme par exemple ce facteur H qui se fixe à ce qu'on appelle la protéine M et qui vont inactiver le complément, donc empêcher la phagocytose, l'opsonisation liée au complément, fixer aussi les immunoglobulines au cas où il y a des anticorps spécifiques en les inversant et donc en empêchant leur fragment FC de trouver son récepteur à la surface des phagocytes. Donc il y a un vrai travail de ces micro-organismes à la fois d'adhésion aux cellules via leur matrice et d'échappement à la phagocytose. Mais ce qui est caractéristique de Streptococcus pyogenes en particulier, c'est cette panoplie en fait impressionnante de facteurs dont beaucoup sont des enzymes en fait qui vont interférer avec les défenses immunitaires et détruire en fait un certain nombre d'éléments tissulaires. Mais ce qui est devenu extrêmement clair à l'heure actuelle, c'est que ce qui fait probablement la différence pour ces souches qui donnent lieu à ces fasciites nécrosantes, c'est la capacité de ces micro-organismes de cliver l'interleukine 8, on en a déjà parlé, c'est une chimiokine qui recrute les polynucléaires neutrophiles au site de l'infection et qui va permettre finalement à l'hôte de très rapidement se débarrasser, d'engager de se débarrasser du micro-organisme. Et en fait, ce que font les souches responsables de fasciites nécrosantes de Streptococcus pyogenes de type A, ça a été très bien montré par un groupe en Israël, le groupe d'Emmanuel Hansky, publié, vous le voyez, dans Embo Journal en 2006, c'est de produire des enzymes, SCP, A et C, ici, qui sont en fait des protéases qui vont cliver l'interleukine 8 et empêcher sa fonction de chimiokine et de recrutement des polynucléaires neutrophiles. Et ce joli travail du groupe d'Emmanuel, en fait, c'est enrichi d'une approche expérimentale, puisque ce qu'ils ont pu faire, c'est un mutant simple dans SCPA et puis un double mutant dans SCPA et SCPC, créer une infection avec cette souche chez la souris, puisque la souris est sensible à Strepto A et fait des lésions cutanées de destruction massive assez proches de ce qu'on voit dans la fasciite nécrosante. Et ce que vous voyez ici, c'est que chez un individu, une souris sauvage, on a cette destruction tissulaire massive qui correspond en gros aux lésions de fasciite nécrosante. Et chose observée aussi chez l'homme, l'absence quasi totale au sein de ces lésions de polynucléaires neutrophiles, ce qui avait beaucoup choqué les histologistes qui ont vu les premiers cas de fasciite nécrosante, c'est l'absence totale de cellules phagocytaires ou l'absence quasiment totale de cellules phagocytaires, en particulier de poly. Lorsqu'on a un simple mutant SCPA, on a un phénotype intermédiaire. Et lorsqu'on a un double mutant SCPA-SCPC, c'est ce qui est montré ici avec le dosage de la myeloperoxydase qui est un témoin de la quantité de polynucléaires dans les tissus, confirmé par l'histopathologie, on voit une infiltration massive de polynucléaires neutrophiles et une guérison relativement rapide qui va se marquer d'ailleurs par la survie des souris, contrairement à celles qui sont infectées par la souche sauvage qui meurt très très rapidement de la diffusion massive de ce processus infectieux. Donc il y a, encore une fois, et on en a parlé souvent pour d'autres situations, une vraie course de vitesse entre l'invasion par le micro-organisme et la mobilisation des mécanismes de défense, lorsqu'encore une fois la barrière initiale fonctionnellement a été altérée. Et il est clair que si la bactérie arrive à retarder, voire à abolir quasiment le recrutement des cellules inflammatoires, des polynucléaires, comme elle le fait avec ces protéases qui dégradent l'interleukine 8, elle va gagner la course et les lésions, bien entendu, vont se développer massivement et la souris va mourir. Donc j'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu en prendre d'autres avec Staphylococcus aureus, mais je pense qu'il fait clairement le point que je voulais mentionner sur finalement ce qui fait encore une fois qu'un pathogène est un pathogène par rapport aux bactéries du microbiote, aux bactéries commensales qui n'ont pas tous ces éléments de virulence extrêmement agressifs et délétères et qui ne vont finalement donner lieu à des possibles altérations, cas de l'acné, que dans des conditions environnementales très particulières. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ici. Et j'ai pris la décision de ne plus avoir de montre, comme ça je ne mets pas dans des situations de stress impossibles. On va essayer de procéder comme les fois précédentes. Si vous avez des questions particulières sur le sujet, j'essaierai d'y répondre. On se donnera quelques minutes pour que vous puissiez vous reprendre vos esprits. Et je vous présenterai le professeur Gérard Hort pour sa présentation dont le titre est sur cette diapositive. Voilà, je vous remercie.